Le fantastique, une littérature plaisir. C'est donc le générique de plusieurs débats autour du fantastique, de la science-fiction, de la bitlit, de... Non, on arrête là. Et pour en parler autour de moi, je vais aller de mon extrême gauche à mon extrême droite. Je suis désolé de dire ça comme ça.
C'est cool, hein.
Et n'oubliez pas que l'extrême gauche en France, c'était celle qui, pour le speaker, était à l'extrême gauche. Donc, les rôles sont inversés quand on est là. David Artero, donc, qui écrit du fantastique, un peu horrifique même, 4 saisons, Heptagon, Consciente Agonie, Heptagon 2, et Duodémonum, qui est un album de nouvelles avec... de très jolies illustrations, enfin jolies, de très belles illustrations, elles ne sont pas vraiment jolies. Et sous le pseudo Papounet, il écrit aussi des contes pour enfants. Pour ses enfants d'abord et pour les enfants. Alors, à ses côtés, Francis Berthelot. C'est toujours très difficile de présenter Francis Berthelot, il est tellement multiple.
Ça ne va pas s'arranger.
il l'a écrit. De la SF, Rivage des Intouchables, La ville au fond de l'eau.
De l'œil.
C'est terrible quand on écrit mal et qu'on se redit et qu'on ne fait pas attention.
Non mais allô, quoi, c'est pas une histoire sur la ville 10, enfin.
La ville au fond de l'œil, j'en rougis. Et puis, aussi une série de romans fantastiques, qui est sur la série qui s'appelle Les rêves du démiurge, j'ai vite regardé bien pendant le dire le plus de conneries, avec entre autres Hadès Palace, Le petit cabaret des morts qui est là et d'autres. Et puis c'est aussi un essayiste, puisqu'il a commis la bibliothèque de l'entre-deux-mondes où il explore la contrée entre la littérature générale et l'imaginaire, ce qu'il appelle la transfiction.
J'ai pas dit conneries. C'est à peu près ça, c'est la bibliothèque de l'entre-monde et c'est les transfictions. À part ça, vous avez tout juste.
Décidément, il faudrait que je prépare mieux mes interventions.
Non, il faut que tu m'invites pas n'importe qui.
Jusqu'ici, j'avais des comparses un peu plus agréables, ouais. Moins tatilleux. Gudule. Difficile à présenter aussi, parce que plus de 280 titres, ai-je lu quelque part.
Oui, c'est quelque chose comme ça.
C'est quelque chose comme ça. Donc, une star de la littérature du fantastique, une star de la littérature jeunesse, enfant, plus ou moins 40 prix de tout style. Alors, on peut citer comme bouquins qui m'ont beaucoup, dont je me souviens vraiment bien, Le chien qui rit, Entre chien et loup, La vie à reculons, La petite fille aux araignées. Ça m'a impressionné. Mon âme est une porcherie, là, c'est vraiment le plus violent à terme de ce qu'elle a écrit, etc., etc. Et puis, à ma droite, Anne Fakoury, Le clairvoyage chez la Talente, en 2 tomes, qui a eu le Grand Prix d'Imaginaire, je ne sais plus en quelle année, 2010. Et Narcogénèse, qui est un thriller fantastique. Et maintenant, là vient de paraître L'horloge du temps perdu, qui est plutôt SF, enfin il y a, c'est du fantastique avec un voyage dans le temps, ouais. Quand même. Et alors Mélanie Fazi, traductrice, écrivaine, qui cumule les deux, elle traduit le grand Graham Joyce qu'on ne connaît pas assez en France, Liza Tuttle, Poppy Zebright, et alors elle écrit aussi des choses très, très sophistiquées, je trouve très, très belles, Notre-Dame aux écailles, Serpentine, Trois pépins du fruit des morts, etc. Le tout, je crois, sauf Trois pépins chez Folio aujourd'hui. Alors, le fantastique. Qu'est-ce que c'est que le fantastique d'abord? Est-ce qu'il faut donner une définition du fantastique ou est-ce que c'est accepté par tout le monde? En fait, le fantastique, c'est un registre littéraire qui se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Alors, c'est pas du merveilleux, parce que dans le merveilleux, le surnaturel est accepté directement, c'est-à-dire qu'on s'y habitue, et que c'est une donnée du monde dans lequel on est. Dans le fantastique, le surnaturel n'est pas une donnée. c'est une intrusion, c'est une rupture, c'est quelque part un scandale dans la vie réelle. Et donc là, il y a une hésitation du lecteur, du héros, etc. Est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est pas la réalité? Et c'est cette hésitation précisément qui donne de la saveur déroutante au récit, et même parfois de l'angoisse pour des récits qui sont beaucoup plus franchement terrifiants. Alors, cette définition, Francis, est-ce que vous la faites un peu vôtre ou est-ce que vous avez un peu déconné?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
Ça me fait plaisir.
On peut dire-tu sur scène aussi, comme à la ville?
Nos recommandations d'animateur, c'est
on se dit vous. Bon, alors monsieur, je veux dire.
Parce que sinon, ça crée tellement la complicité qu'on exclut la salle.
Ah, d'accord.
Mais la salle est d'accord, on peut se dire-tu.
Oui, d'accord, merci. Bon, oui, je suis d'accord avec cette définition. J'ajouterais, mais ce n'est pas non plus obligatoire, que le fantastique souvent s'appuie sur les zones d'ombre du christianisme, alors que le merveilleux était plutôt lié au paganisme, à la magie, aux fées, etc. Toute une partie du fantastique, tout ce qui est les fantômes, les vampires, les morts-vivants, c'est lié à la vie après la mort, et donc les zones d'ombre du christianisme. Et, bon, la croix qui intervient dans les récits de vampires, comme, enfin, au début, maintenant, ils sont plus modernes, ils sont vaccinés. Mais... Et sinon, alors, est-ce que la question posée sur ce que j'ai écrit, moi, ou sur juste la définition en général?
Mais non, en vrai, continue, sur ta lancée.
D'accord, j'embraye. Alors justement, moi finalement, j'écris pas vraiment du fantastique. C'est-à-dire, j'ai ce cycle, Le rêve du démiurge, qui comprend 9 romans. Les deux premiers sont totalement réalistes. Le surnaturel intervient dans le troisième par le fait qu'un personnage peint sur une fresque sort de la fresque et commence à agir sur le monde réel. Donc là, il y a un élément surnaturel. Alors, les héros sont un petit peu surpris, mais on n'insiste pas vraiment sur cette surprise. Et par la suite, il va se passer, à mesure que le cycle avance, on bascule de plus en plus dans le surnaturel. Mais il est accepté, donc je rangerai plutôt ce que j'écris dans le merveilleux noir, ou la dark fantasy, ou quelque chose de cet ordre, plutôt que dans le fantastique, conformément à cette définition.
Et Gudule, depuis toujours, oui, quasiment, tu écris du fantastique. Pourquoi écris-tu du fantastique?
J'écrivais déjà du fantastique quand j'étais gamine. Bon, je pense qu'il y a aussi une fascination. Là, tu as fait la différence entre le merveilleux et le fantastique, mais une grande fascination pour le conte, qui est quand même de l'univers de l'enfance et qui crée des fantasmes. Et qui m'intéresse beaucoup plus, moi, quand le merveilleux plonge ses racines dans l'horreur, quoi. Et je pense que là, la notion de plaisir, elle est vraiment présente. Quand cette vision des choses se métamorphose, quand l'horreur est quand même quelque chose d'extrêmement jouissif, à la fois écrire et à la fois lire. Je pense que personne ne me contredira. Mais ça m'a étonné d'ailleurs que tout à l'heure, tu ne fasses pas le distinguo entre le fantastique et l'horreur.
Je laissais à mes confrères le soin de le faire.
Qui, effectivement, moi, la notion que tu as dit, qui est de plonger ses racines dans effectivement les aspects les plus sombres des religions, ou les moments les plus sombres des religions, c'est quand même très intéressant parce qu'on est tous imprégnés de ça depuis toujours. On est imprégnés de notions d'enfer, de notions de souffrance, de mort horrible. Et voilà, quand le fantastique et le merveilleux rejoignent ça, là on est tout à fait dans la logique de ce que nous écrivons tous, quoi, il me semble.
David, vous voulez intervenir ?
Oui, non, je voulais dire justement que fantastique, en France, c'est vrai qu'on met l'horreur dedans. alors que dans les pays anglo-saxons, l'horreur est vraiment à part, un genre à part entière. Et nous, je pense, on est plutôt dans le genre horreur que dans le genre fantastique.
Nous, ça veut dire qui, nous ?
Gudule, par exemple.
Ah oui, tout voilà. À fait, oui.
Je pense qu'on se classe mais plus bon. Dans cette catégorie si on doit se mettre dans une case.
Mais effectivement, c'est quand même le fantastique qui génère cette horreur, qui n'aurait pas le même écho et la même signification si elle ne passait pas à travers le fantastique, quand même.
Mais le fantastique n'est pas fait que de monstres qui nous font peur, il est fait aussi de choses plus subtiles, de peurs qui viennent peut-être de l'enfance, etc. Mélanie, ton fantastique n'est pas fait de super monstres. Des super monstres verts avec plein de tentacules.
J'en ai peut-être un ou deux qui sont cachés quelque part en cherchant, mais je n'arrive pas à souvenir de ça. Mais je pense qu'en plus, plus j'avance et plus j'écris des choses qui sont de moins en moins sombres. On dit souvent que Serpentine, c'était un recueil qui était assez obsédé par la mort. Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, mais on le perçoit souvent comme quelque chose d'extrêmement sombre. Mais je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur la réaction des personnages face au fantastique, quelque chose qui est anormal, la surprise qu'on éprouve face à ça. Et en fait, je m'aperçois que je suis plus en plus intéressée par... Je ne sais pas comment dire ça. Je m'aperçois qu'au bout de 10 ans à écrire traditionnellement dans chaque texte la scène avec la réaction du personnage face à quelque chose qui n'existe pas, face à l'absurde, etc., j'ai de plus en plus envie de zapper ça et de chercher des moyens de faire un fantastique où... un peu comme ce que disait Francis, les personnages sont face à quelque chose qui n'existe pas, mais c'est pas grave, on ne va pas du tout insister sur la surprise, on va essayer de l'intégrer telle qu'elle. Et je me pose vraiment la question, est-ce qu'on est encore dans cette définition ou pas ? Et je m'aperçois que ce que j'écris est en train de, petit à petit, de muter vers ça, en fait.
Et Anne, votre fantastique à... ton fantastique à toi, je ne sais plus où j'en suis, moi, tu vois mon livre, vraiment. Ton fantastique à toi, il vient quoi ? Des peurs de l'enfance ? Dans l'archogénèse, c'est un peu ça, c'est des vengeances familiales, des secrets de famille, et des peurs, et des peurs d'être abandonnées.
Alors strictement oui, puisque l'archogenèse effectivement montre un marchand de sable dans leur sommeil. Et ça vient clairement d'un fantasme enfantin où quand on raconte ce marchand de sable, on ne peut qu'avoir peur. Un type qui vient à moitié déguisé en polichinelle pour jeter du sable dans les yeux, c'est quelque chose de terrifiant. Mais en fait, ça c'était ma réponse peut-être avant l'archogenèse. Pendant, maintenant, je dirais qu'au contraire, j'écris du fantastique pour ne pas être face à mes vraies peurs, mes peurs réalistes. C'est-à-dire, je crois que c'est John Irving qui écrit tout ce qui lui fait plus peur dans la vie. Donc, on est dans des pertes d'enfants, la perte de l'autre, l'incompréhension, etc. Moi, j'ai décidé d'être lâche. Finalement, je préfère raconter des histoires de monstres. Ça me fait beaucoup moins peur. Que ce qui se passe dans la vraie vie, l'idée de perdre mes enfants ou d'être face à un monde précaire et fascisant que je pourrais dans lequel je peux me sentir extrêmement mal, dans lequel je peux par moments me sentir extrêmement mal. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense que j'écris vraiment du fantastique justement parce que c'est une pause dans ma peur. Et après, c'est vrai que ça peut être la concentration de plein de choses et plein de fantasmes. Il se trouve que Narcogenèse est un roman qui a pour base l'infanticide et le déni de grossesse. J'ai écrit enceinte, je l'ai terminée la veille de mon accouchement, enceinte de ma deuxième fille. Mon maîtrise m'avait dit, je veux vraiment que tu le finisses enceinte, et c'était important, parce que déjà j'étais au cœur du sujet. Le roman est venu de l'affaire Pourgeot, en fait, d'une phrase dans l'affaire Pourgeot où elle a dit, je n'ai pas pu tuer ses enfants parce qu'ils n'existaient pas. Donc je me suis demandé à partir de là où allaient les enfants qui n'existaient pas in utero, mais qui n'existaient pas non plus pour la société et pour nous, et toutes les projections qu'on pouvait faire sur nos enfants, ce qui faisait que finalement ils n'existaient pas. Et c'était important aussi, en tout cas là c'est plus personnel, pour moi, pour gérer cette terreur d'avoir des enfants, d'accoucher, mais aussi d'avoir des enfants après et de savoir où me placer vis-à-vis de ça. Donc le fantastique pour moi c'est une déviance de la peur. Maintenant je vais revenir sur la définition du début, qui est vraiment la définition du fantastique à la Todorov, hein, le fantastique du 19e, où tout se passe au niveau du personnage, la façon dont il doute, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'on est dans le surnaturel ou est-ce qu'on est dans la folie. Moi je me place plutôt face à un fantastique qui a évolué, où il y a ceux qui voient, ceux qui ne voient pas, c'est-à-dire ceux qui ont accès au surnaturel, et les autres qui continue dans une dans la réalité. Voilà, c'est bizarre. Moi, j'aime les personnages qui sont voyants, clair voyageur ou clairvoyant.
Voilà. Je suis resté au 19e siècle.
Désolé.
Non, mais tu as raison. David, tu fais du fantastique aujourd'hui ou de l'horreur aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est encore un genre très porteur aujourd'hui de faire ça?
C'est au public qu'il faudrait demander d'ailleurs. Très porteur. Bon, moi, j'adore le fantastique. J'espère qu'il est encore porteur. En fait, je sais pas trop répondre à cette question.
Non, tu fais ce que tu veux.
Oui, je fais ce que tu as envie de faire. Est-ce que c'est un genre porteur? Je ne sais pas, est-ce que c'est un genre porteur? Vous aimez bien le fantastique?
Et si les gens sont là, c'est qu'ils les aiment, c'est qu'ils les aiment.
Bon, ben, la réponse, elle est là, finalement.
Voilà, deux, trois personnes dans cette salle qui travaillent en direct avec nos lecteurs, qui pourraient répondre, hein, qui sont contents de répondre. Oui, oui, là-bas, par là. Si tu veux faire passer.
Non.
Allô?
Donc ça marche encore, je traduis.
En fait, comme pour le lecteur comme pour l'écrivain, le fantastique, c'est pour exorciser ses angoisses, d'une.
Mais il y a surtout que notre matériau, quand on écrit du fantastique, c'est vraiment c'est nos ténèbres internes, quoi. C'est ce qui est en nous et s'apparente à la folie, au conditionnement qu'on a pu avoir enfant et qui monte, et c'est finalement de sortir tout ça qui rencontre le lecteur, puisque on est un petit peu tous pareils, que ces ténèbres-là sont les mêmes pour tout le monde. Et l'écho que ce qu'on dit peut avoir, c'est un truc du mal, quoi, point. C'est pour ça les histoires de monstres et tout. Bon, moi personnellement, je ne m'intéresse pas très fort, mais ce sont les origines de nos peurs, c'est ce qui nous habite et qui nous détruit de l'intérieur. C'est surtout ça qui est intéressant, je trouve. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Anne, évidemment.
Ça rejoint donc tout à fait ce que disait Anne, ajoute Gudule à la fin, mais en dehors du micro. Ça veut dire que les écrivains de fantastique peuvent comme ça se passer de psychanalyse, Mélanie?
Vous avez 2 heures. Je ne sais pas quoi ajouter à ce qui vient d'être dit, parce que pour moi c'est exactement ça, c'est pour ça que je m'y suis intéressée comme lectrice et comme... même si j'aurais tendance à dire... Un exemple que je cite souvent, c'est Stephen King par exemple, qui est un auteur que j'ai découvert adolescente, et j'ai dévoré tous ses livres adolescentes. Pour les monstres, pour la partie fantastique, etc. Et que j'ai relu adulte en m'apercevant que ce qui me parle dans ces livres, en réalité, c'est pas le monstre, c'est tout ce qui se révèle sur les personnages, tout ce qui dit d'humain en dehors. Et je le lis quasiment, j'allais dire, je le lis plus comme un auteur fantastique, si, mais finalement, effectivement, le monstre sert essentiellement de révélateur à tout ça, même chez un auteur qui est considéré comme plutôt horrifique, entre guillemets. Après, est-ce qu'on peut se passer de psychanalyse après? Je ne sais rien.
C'était une boutade, évidemment. Francis, est-ce que, en fin de compte, le fantastique est révélateur de la vraie vie intérieure de chacun d'entre nous?
Moi, je pense que oui. Enfin, c'est. Si tu veux, moi, ce qui fait que j'écris en faisant intervenir le surnaturel, c'est apparu très clairement. Quand j'ai commencé à ce cycle, qui commence dans le réalisme, et il y a un moment où c'est devenu trop contraignant de me borner à... Enfin, c'est un bon exercice de style, c'est intéressant, mais de me borner aux éléments possibles. Il y a un moment où il faut qu'il se passe des choses qui ne se passent pas dans la vraie vie, sinon c'est pas drôle. Enfin, pour moi, à écrire, il faut que je puisse aller dans mes fantasmes. L'écriture, c'est... Et ça, c'est ma pratique à moi. C'est pas la description du monde extérieur tel qu'il est. C'est la description de ce que je porte en moi, des figures symboliques qui me hantent, et ça ne dispense absolument pas de psychanalyse, parce que j'ai quand même usé un certain nombre de psy dans ma carrière. Là, j'en suis au cinquième, merci. Ça fonctionne en synchronie avec. C'est aussi pour ça que j'écrivais sous alcool, d'ailleurs, quand j'écrivais. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'écrire, d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, ça devient toxique. Mais c'est une façon de casser les barrières, de casser les barrières de la censure, de casser les barrières de la réalité, entre guillemets, sachant qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Hein. Mais je ne cherche pas forcément ça en tant que lecteur. C'est-à-dire que, paradoxalement, en ce moment, je ne lis que des romans réalistes du 19e, début 20e. Je pourrais expliquer pourquoi en détail, mais c'est un petit peu hors sujet. Et je pourrais aussi expliquer pourquoi j'ai arrêté d'écrire. Je vais l'expliquer d'ailleurs, en fait. Parce que je suis allé dans ce cycle au bout de l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a huit romans avec une intrusion de plus en plus grande du surnaturel dans le monde réel, et le neuvième, qui n'est pas encore paru, qui paraîtra quand le Bélial aura la bonne idée de sortir l'intégrale du cycle en deux volumes. Alors je vous invite à aller faire pression sur Olivier Girard, lui demander ça sort quand l'intégrale du cycle. Ça accélérera peut-être un peu le machine.
Quand vous rentrez dans la bulle du livre, c'est le premier stade à droite.
Tout de suite à droite. Merci d'avance. Et donc, le neuvième raconte en fait l'histoire de l'auteur, entre guillemets, des huit précédents, qui se trouve confronté à une crise précise. Sa maison d'édition est rachetée par un grand groupe et il a fait de très mauvaises ventes. Donc là, on est dans le M. Et donc, il ne sait pas ce qui va devenir. La collection il publie risque d'être supprimée. Il ne sait pas si ses bouquins ne vont pas être tous pilonnés en masse. Et là-dessus, les personnages de ces huit précédents romans, dont on a suivi l'histoire au premier degré en lisant les huit premiers romans, hein, ces personnages-là interviennent depuis les limbes de la fiction dans son monde à lui. Donc c'est une mise en abîme de l'écriture et de ce qui est... ce qui a été raconté jusqu'avant. Et ça se termine par le dit auteur vivant de façon médiumnique, complètement bourré et halluciné, le pilonnage de ses livres, la disparition de ses personnages dans les liquides dissolvants de ses propres livres, et il meurt. Et l'épilogue, il se trouve dans les limbes de la fiction, devenu lui-même un personnage de fiction, puisqu'il a pris des notes sur ce qui lui arrivait, et ben, les génies du théâtre ou de la fiction, qui veillaient sur tout ça, a fait en sorte que ces notes deviennent elles-mêmes un livre. Donc, il est devenu lui-même un personnage de roman. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces personnages à lui intervenaient soit pour l'enfoncer davantage auprès de son éditeur, s'il les avait maltraités, soit au contraire pour le soutenir. Donc il y a un combat de ces personnages à la fois dans les limbes de la fiction et dans sa vie à lui. Bon, donc j'ai écrit la mort de mon œuvre, j'ai écrit ma propre mort. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après? Donc j'ai arrêté d'écrire. Ça, c'était il y a 2 ans. D'ailleurs, si vous lisez ma biographie sur... sur mon site Noosphère, vous voyez Francis Berthelot, non, l'écrivain Francis Berthelot s'est donné la mort le 27 juillet 2011, jour de son 65e anniversaire. Pour ma part, je continue, donc ma présence ici est un élément fantastique, parce que, en tant qu'écrivain, je suis un écrivain posthume, c'est-à-dire mon statut sur Facebook, hein, vous verrez, écrivain posthume et compositeur virtuel. Pourquoi compositeur virtuel? Parce que je ne me suis pas arrêté quand même de créer. Je suis passé à la musique et je compose de la musique de ballet sur ordinateur. Donc j'écris des ballets qui pour l'instant ne sont pas encore édités, donc c'est pour ça que je suis entre deux mondes. Et donc je suis encore un compositeur aussi virtuel, même si je fais de la musique synthétique. Je fais de la musique synthétique. Et j'écris des ballets. Le premier que j'ai écrit, qui est terminé, pour lequel je cherche une maison de production, ça tient en un CD, hein, ça calculait juste pour ça 74 minutes pétantes. Si quelqu'un d'ailleurs a des contacts, merci. Je l'ai tiré, j'ai tiré le livret d'une nouvelle fantastique qui était parue dans une anthologie du groupe Limite, aux limites du son, chez La Volte. Ça s'appelait La Symphonie inaccessible. Alors j'ai remanié pour en faire un livret de ballet, et c'est un livret fantastique, avec tout ce qui va avec. Bon, j'ai fini ma tirade.
En tout cas, remercions l'auteur posthume d'être parmi nous pour raconter encore cette histoire. Anne, si tu utilises le fantastique, c'est parce que dans ce genre-là, tu peux dire davantage de choses que si tu utilisais le langage du réalisme pur.
En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir répondu avant sur, du coup, sur les peurs. Et, non, j'ai pas l'impression de pouvoir dire davantage de choses. Choisis pas un genre pour écrire quelque chose. J'ai une histoire et je la raconte, et à ce moment-là, le genre qui correspond plus à l'histoire émerge. Or, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à raconter sur la peur, mais le roman que je suis en train d'écrire n'a rien à voir. C'est la littérature générale pour la jeunesse, et c'est sur la transmission, en particulier la transmission culturelle féminine entre les années 20 et de nos jours. C'est pas obligatoirement le genre qui fait que je peux m'exprimer quel que soit le genre. Alors c'est vrai que ça m'amuse moins, avant je m'exprimais en science-fiction par exemple pure, mais non. Le prochain c'est ça. Un autre roman que je suis en train d'écrire à quatre mains, c'est La Fantaisie urbaine, Chicago 1925. Al Capone voit très mal l'arrivée des fées dans sa ville, donc il monte. C'est d'ailleurs tiré de la nouvelle qui est dans l'anthologie des Imaginales, Elle fait assassin. Donc c'est dans cet univers-là aussi, avec la même bande de quatre assassins de fées. Donc, parce qu'évidemment, la présence de fées à Chicago, ça dérange Capone pour deux choses. D'abord, il est catho. Ensuite, il est mafieux. Évidemment, plus il y a de fées, moins il y a de prostitution, moins il y a d'alcool. Ça a quand même pas mal baissé son chiffre d'affaires. Donc voilà, et en revanche, celui qui sort en août, Chirajou, hanté, alors là, c'est du pur fantastique, un adolescent qui voit les fantômes, qui les entend et qui est entraîné dans une histoire avec le fantôme d'un enfant, un soldat du Rwanda. Voilà.
Donc, le livre à 80, c'est avec Thomas Géa ?
C'est avec Thomas Géa, oui. C'est de la fantaisie urbaine. Donc non, c'est pas une question de genre. Hein. Le genre, c'est ce qui vient après. Une fois que l'histoire est là et qu'on a envie de raconter quelque chose en particulier.
Est-ce que ce que tu écris, enfin d'après ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que tu aies terminé ton roman au moment où tu mettais ton bébé au monde, donc tu as mis deux bébés au monde en même temps, est-ce que ce que tu écris, tu le ressens comme une métaphore de ce que tu vis dans le réel, transposé avec un éclairage autre ou pas ?
C'est lié aux événements vraiment de
ta vie au...
Narcogenèse, c'était ça, parce que j'étais effectivement enceinte et que c'était la conclusion d'une réflexion sur ma première grossesse, sur le naturalisme. Ma première grossesse, il y avait cette espèce de grande mode du naturalisme, il fallait allaiter, porter ses bébés, etc., ce qui est très bien, sauf que c'était une vraie prise de pouvoir, et voilà, il y avait eu Badinter entre-temps, j'avais lu Badinter, ça m'a un petit peu réconcilié avec tout ça, parce que son discours est tout à fait, comme d'habitude, posé, intelligent, et dans un féminisme qui défend les femmes au lieu de leur imposer ce qu'elles doivent penser pour être une vraie féministe ou une vraie femme. Et pour terminer, Narcogenèse, du coup, enceinte d'un deuxième enfant, c'était vraiment lié à ça. Mais comme le clairvoyage, enfin, je ne sais pas si vous réagissez comme ça les uns les autres, mais comme le clairvoyage, c'était la conclusion d'une autre étape de ma vie où j'avais envie de fixer les gens que j'aimais. Bien sûr que j'avais envie de raconter une histoire, bien sûr que j'avais envie de défendre un propos, mais ça, c'est la base de tout, mais il y avait aussi l'envie de fixer des gens que j'aimais qui n'étaient plus là, et c'était à ce moment-là effectivement, et c'est au moment où j'ai eu ma première fille. C'est aussi au moment où je me suis dit, voilà, j'ai un enfant, je vais arrêter de déconner, ça fait 20 ans que j'écris que je montre rien, parce que je trouve pour l'instant pas ça au point, donc maintenant je vais le faire, donc oui, c'est et heureusement que c'est complètement lié. Je veux bien que la nouvelle mode soit qu'être auteur c'est un savoir-faire et que c'est une question de technique, mais hélas, pour ceux qui se protègent et qui se cachent derrière ça, c'est aussi un savoir-être, et on ne peut pas, à mon avis, mettre à distance notre œuvre de ce qu'on vit ou de ce qu'on est. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien ressenti.
Oui, enfin, moi, ça me paraît même aberrant d'imaginer qu'on puisse mettre ce qu'on fait en dehors de ce qu'on vit, dans le jour où notre matériau, c'est ça, c'est nos émotions, et où on va curter le plus loin possible pour arriver à être convaincant avec nous-mêmes avant d'être convaincant pour le lecteur, quoi. S'il y a une authenticité dans les émotions qui sont racontées, dans les colères ou dans les larmes qui sont racontées, c'est forcément le livre existera réellement, quoi. Donc je pense que ça, c'est l'abstraction. Et c'est vrai que dans la vie, enfin, tu parles de ta grossesse, dans la vie, on vit des moments clés, des moments forts, et ces moments-là, on a envie d'en parler parce qu'ils sont vecteurs d'angoisse, de peur, de questionnement, et que ben, tout ça, c'est en allant les curter au plus profondément possible qu'on arrive à les exprimer et à les exprimer de... et à faire réellement quelque chose qui vaut le coup. Quoi.
Et ce curtage est douloureux. Donc écrire comme ça, c'est douloureux.
Oui, sûrement. Je sais pas où. Moi, la partie que je trouve douloureuse, c'est strictement la partie technique, mener une idée à terme, etc. Donc je me pose pas la question de ce que je vais mettre. À la limite, la question que j'aurais pu me poser, c'est effectivement quand on met des choses personnelles, la peur qu'on peut avoir du regard que les autres vont avoir dessus ou pas. Et je me suis aperçue avec l'expérience qu'en fait, plus on met des choses personnelles dans un texte, plus les gens vont sentir qu'il y a quelque chose de personnel, mais ils vont le chercher ailleurs. Et ça m'est arrivé d'écrire des choses, mais des choses dont je ne parle même pas autour de moi. Elles sont écrites noir sur blanc, personne ne les voit, parce qu'ils sont focalisés sur d'autres émotions qui sont ancrées ailleurs dans le texte. En fait.
Et qu'ils leur parlent davantage.
Il y a quelque chose, oui, c'est à la, je ne sais pas si c'est effrayant, c'est grisant, c'est tout ça à la fois. Mais... Et en soi, par contre, je ne sais pas si je serais capable d'écrire sur... On me disait tout à l'heure sur les peurs, les choses qui vraiment me terrorisent, au moment où elles le font, je ne peux pas. Mais si, par exemple, j'ai commencé à tourner la page sur quelque chose, oui, c'est à ce moment-là, je peux commencer à... C'est une manière peut-être de tenir à distance, je dirais, une manière de commencer à réfléchir à quelque chose qui vient d'arriver, même si ça m'est arrivé aussi que la réalité rattrape la fiction et qu'il m'arrive quelque chose au moment où je l'écrivais sans que ça ait été prémédité. Enfin, c'était... À ce moment-là, je me dis, ok, à ce moment-là, ce qui est en train d'arriver, je vais le mettre dans ce texte. Ça m'est arrivé de manière quasi fantastique il y a 2 ans, en fait. J'invente une intrigue et c'est presque arrivé juste après.
C'est fantastique, ça.
C'est un peu effrayant, quand même.
Oui, là, tu crées tes propres démons, là.
En les
libérant, tu leur donnes vie, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être très, très violent, de toute façon, d'aller... de faire appel à ça, de faire appel à cette réalité intérieure qu'on a tous pour la faire sortir. C'est aussi un accouchement, mais c'est aussi c'est aussi ouvrir la cage aux oiseaux. Je trouve que les oiseaux, c'est peut-être des très relatifs.
Oui, l'accouchement, c'est un peu le
cas. David, vous, c'est aussi très difficile pour vous d'accoucher de vos nouvelles et vous pouvez être plutôt d'horreur.
Difficile, non. Mais je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en fait coucher sur papier toutes les peurs qui sont en moi. Donc il y a également du vécu ou de grosses frayeurs de ce qui pourrait arriver. Et une fois qu'elles sont sur papier, c'est comme si on exorcisait ses angoisses, ses peurs, on les couche sur papier, c'est fini, on passe à autre chose. Et pour revenir à la question, non, c'est pas difficile. Au contraire, c'est un régal de sortir des choses horribles de soi, de les coucher sur papier, d'en faire une histoire pour que le lecteur soit effrayé. Parce que c'est mon domaine de prédilection, d'effrayer le lecteur. Donc non, voilà, c'est...
Et alors, les problèmes résolus par l'écriture, tu les mets au placard et tu les oublies
En quelque sorte, oui. Mais d'autres, le problème, c'est que d'autres problèmes arrivent. Voilà, c'est sans fin. Donc, il y aura toujours de quoi écrire, il y aura toujours de quoi exorciser toutes ces peurs et ces frayeurs.
Si c'était si facile
oui, si c'était si facile
de mettre tout cela au placard. Francis, au placard ?
Ah non, pas du tout. Ça ne fonctionne absolument pas. Pour moi, l'écriture n'a aucun effet thérapeutique, c'est aucun effet cathartique. Par exemple, j'ai perdu mon copain en 91 qui est mort du sida. J'ai écrit le Jongleur interrompu, qui est une espèce de roman à sa mémoire, enfin de monument littéraire que j'ai élevé à sa mémoire. Mais ça m'a absolument pas empêché de faire une dépression 4 ans après sa mort parce que j'arrivais pas à faire mon deuil. Donc ça n'a aucun effet cathartique, pour moi en tout cas.
Ça dépend, je suppose, chacun.
Ce qui peut avoir un effet positif à la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on met des choses extrêmement personnelles dans des textes ou autres, c'est le moment où des gens viennent nous dire après, mais ce que vous avez... Alors, on est terrorisé d'écrire quelque chose en disant le jugement des autres, le regard sur ce que je viens d'écrire, et quelqu'un vient nous dire, mais ce que vous avez écrit là, je m'y suis reconnue, et je ne pensais pas que... Enfin, je ne pensais pas qu'on était plusieurs à ressentir ça, et on s'aperçoit que... Il peut y avoir ça, par contre.
Ça veut dire que le personnel devient universel ?
Moi, je n'ai pas tout à fait le même ressenti sur le regard des autres, à savoir que c'est quelque chose que je laisse justement au lecteur. Et voilà, donc là, pour le coup, pour une fois, sur un sujet, j'ai vraiment une distance. Et du coup, le fait qu'on voit des choses personnelles que je n'ai pas obligatoirement mises consciemment ou qu'on imagine ne me dérange pas du tout. Ça a été beaucoup plus difficile... avec mon entourage après l'arcogénèse qui est quand même un livre sur la famille, hein, donc ma mère m'a fait la gueule 3 mois. Évidemment, ma sœur a utilisé le livre pour dire à ma mère, tu vois bien, t'es chiante. Voilà. Donc, c'était super. Et voilà, donc c'est plus ça. C'est évident qu'on touche parfois à l'universel, ou qu'on essaye de le faire. Pour moi, l'auteur, je rejoins Mélanie sur une chose, enfin, l'auteur qui fait le mieux, ça, de toucher les peurs universelles. Personnel, c'est Stephen King, et à mon avis, c'est là son talent, même si on retrouve toujours le thème de l'écrivain, c'est toujours l'écrivain, le monstre qui lutte contre lui-même, etc. Enfin, dans beaucoup de romans, en tout cas Stephen King, une première période, ce qui marche avec Stephen King, c'est le fait que ses peurs sont universelles, et on rejoint le conte, encore une fois, c'est le monstre sous le lit, le monstre qui est en nous, le fait d'accepter ou pas de regarder ces marques brouillantes, en fait, finalement. Moi, j'ai pas le sentiment, j'ai pas assez de recul pour dire qu'il y a vraiment des peurs universelles dans ce que j'écris. Peut-être dans Narcogenèse, effectivement, parce qu'il y a, c'est quand même très lié à la maternité, à la perte de l'enfant et à l'enfance maltraitée et au tabou familial. Et ça, je pense, hélas, que c'est universel. Non, à l'essai occidental, il faudrait dire. Mais voilà, c'est tout. Je sèche. Il est trop tard. En fait, il est trop tôt pour la peine, donc je sèche.
Et moi aussi. Donc, un peu la parole à vous, si vous avez une question à poser à l'un ou l'autre des débatteurs. C'est le moment. Tout a-t-il été dit ? Eh bien, voilà. La première question.
C'est pas une question, mais.
Attendez, parce que je crois que c'est enregistré.
Ah, et si on n'entend pas. Ah, non, c'était pas ça. Ouais, désolée.
Oui. Merci.
En vous écoutant, je me suis dit que pour écrire du fantastique, en fait, il faut être très torturé à l'intérieur.
Très givré.
Ou alors, il faut mettre un peu plus que la plupart des gens que vous voyez, qui simplement que vous voyez, voilà, les regarder.
Alors excusez-moi, mais moi j'ai un CV impeccable, je suis enseignante, j'ai 2 enfants, un mari ingénieur, et j'habite en banlieue.
Non mais parce que j'essayais de me mettre à votre place et je me dis, je ne pourrais pas écrire ça, parce que justement, n'ayant pas autant de peur que vous, certainement, je ne pourrais pas transmettre dans du fantastique comme ça. Moi c'est ce que j'ai ressenti, je me suis dit, les auteurs fantastiques, ils doivent être des gens quand même qui à l'intérieur. Ils sont très
Il faut qu'ils soient tous enfermés, c'est ça?
Non, pas du tout. Il faut
qu'il en reste quelques-uns pour écrire.
Mais est-ce que je n'ai pas, surtout parce que les écrivains fantastiques ressentent, peuvent mettre le doigt sur leurs peurs et les transmettre, plutôt que la, le commun des mortels qui les a, les peurs, mais ne parvient pas à les...
Ne veut pas les voir.
Ou ne veut pas les voir. Il y avait une autre question?
En fait, c'est plus une réaction à ce qu'elle existe, et effectivement, peut-être que tout simplement, vous êtes tous des gens qui s'interrogent beaucoup sur eux-mêmes.
Ça, c'est positif.
Ça dépend.
J'allais dire, t'es en train de dire qu'on est égocentrique.
Non, non,
c'était de la défense.
Non, parce que s'interroger sur soi-même, ça peut avoir
bien sûr.
Ça peut être pour s'améliorer, ça peut être pour se poser des questions, ça peut être pour se remettre en question, ça peut être pour un million de choses.
Quand je suis très cynique et que j'ai vaguement envie de faire de l'humour, je dis que c'est une psychanalyse effectivement payée par mon éditeur. Mais oui, non, mais moi je pense que c'est plus que le fait de, en tout cas pour moi, de s'interroger sur mon âme. C'est juste que il y a effectivement, comme le disait Jean-Claude, l'expression qui va avec. Il y a la peur, oui, mais le fait de d'avoir vraiment besoin de l'exprimer et du coup d'apprendre à le faire.
Moi, c'est pas tellement la peur. En fait, c'est plutôt la souffrance qui est un élément moteur. C'est pour beaucoup de livres que j'ai écrits ont été la symbolisation d'une souffrance que j'avais ressentie, d'un traumatisme que j'avais vécu et que j'ai extériorisé de cette manière. Mais il n'y a pas l'idée de peur, vraiment. Enfin, c'est pour ça que je n'écris pas du fantastique, peut-être.
Et en fait, y a-t-il, pour revenir au thème premier de ce débat, y a-t-il en fin de compte du plaisir à écrire?
Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que justement, cette introspection, quelque part, elle est très jouissive. Et cette espèce de recherche de matériaux qui est en nous, c'est une découverte immense. Toujours, je pense, pour les écrivains, tout comme pour les lecteurs, qui se reconnaissent dans cette espèce de nourriture psychologique qui fait que les écrivains peuvent écrire parce qu'ils ont ça en eux et qu'ils peuvent les récupérer. Quoi.
Elle haussait les épaules tout à l'heure en disant qu'elle n'était pas, hein, en montrant qu'elle n'était pas vraiment la star du fantastique, mais vous voyez comme elle est star là maintenant.
Oh
le micro tendu.
Francis, moi je dirais que dans de ce point de vue là, il y a quelque chose qui va même tout à fait au-delà du verbal, c'est-à-dire que c'est pas forcément, il n'y a pas que les mots qui peuvent véhiculer ce phénomène-là. Et je m'en suis rendu compte justement quand j'ai quitté les mots, quand je suis arrivé au stade où je n'avais plus rien à dire avec des mots et où j'ai commencé à dire ce que j'avais à dire avec des notes. Et j'ai éprouvé la même jouissance à composer. Bon, c'est vrai que c'était un rêve que j'avais depuis longtemps et qui est devenu possible par l'existence des logiciels de composition comme GarageBand et des bibliothèques de son qui font que sur mon bureau, je suis assis à ma table et je peux commander un orchestre entier et l'entendre, et à mesure que je fabrique le morceau, ce qui est une jouissance absolument incommensurable et que j'aurais pas pu vivre il y a 20 ans par exemple. Et j'ai retrouvé là le même bonheur que j'avais, la même excitation que j'avais au début de quand je commençais à écrire. Et là où ça devient vraiment troublant, c'est que j'ai fait entendre mon premier ballet à des copains qui avaient lu mes romans. Et tous m'ont dit, mais c'est exactement la même chose que tes romans. Ce que je pense aussi, mais ça m'a plu que les gens ressentent ça et me le disent. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va au-delà du véhicule-verbe. Je pense que on aurait un peintre ou un illustrateur parmi nous, il pourrait nous dire la même chose, je pense.
C'est marrant, je me suis posé la même question quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo. Moi, bien souvent, je cherche à créer une ambiance ou quelque chose de particulier. Je pense qu'il y a un lien avec ce que j'écris, j'arrive pas à le formuler vraiment, mais je m'aperçois que j'ai en partie la même démarche en fait.
Mais voilà, on va mettre fin, il est moins 10, donc comme ça vous avez le temps de vous précipiter au Magic Mirror 1 pour écouter Ken Scholes. C'est bien lui qui est interrogé, je crois bien. Merci d'avoir assisté à ce débat qui a oscillé entre humour, galéjade et choses dites et bien dites. Merci à David, Francis, Gudule, Anne et Mélanie. Et merci à vous. Au revoir et bonne soirée. À 19h au Magic Mirror 1, remise du Grand Prix des Imaginales, vous êtes tous invités, évidemment.